Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Bienvenue à Pougne-Hérisson. Cette cité si particulière, Pougne, à 3 km d'ici, Hérisson, ici même. Et à Hérisson, très exactement, se trouve le nombril du monde. L'endroit où seraient nées toutes les histoires du monde. Tous les contes, les légendes, les mythes.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary, Sarah Lefebvre.
Alors, ce nombril existe vraiment. Je vous propose donc de me suivre pour aller le découvrir.
Il faut le croire pour le voir. Il faut être très sérieux.
Bonjour, cette semaine on vous invite à un incroyable voyage dans les Deux-Sèvres, en Gâtine, dans la campagne de l'ouest de la France. Là-bas, on ne sait pas très bien si c'est le vent qui a soufflé à l'oreille des villageois ces folles histoires. Il n'empêche, le village de Pougne-Hérisson et ses 360 habitants est baptisé, vous l'avez entendu, Nombril du Monde. Et ça fait près de 30 ans que ça dure. Au 15 août, tous les deux ans, ce pays du grand silence vert, discret, pittoresque, comme disent les guides, s'anime en contes et en paroles, en sons et en lumière, dans le cadre du festival du Nombril du Monde. Et en 2018, il a attiré pas moins de 5000 curieux. Dans cette aventure collective et poétique, le Père Ubu et sa gidouille en spirale n'est pas très loin. Car à Pougne, tous les chemins sont de travers, parsemés, il faut le dire, de girons, de grosses et curieuses pierres, entre le passage du Nombril ou la rue des Merveilles. Suivez-nous avec Sarah Lefebvre et faites le plein d'histoires au pays des cailloux bavards.
On approche de la merveille. C'est écrit noir sur blanc, la merveille de Pougne-Hérisson.
Il est immense ce rocher là.
Ouais, il doit faire au moins 3 hippopotames peut-être, au moins.
À peu près, ouais.
Mais c'est pas aussi gros qu'une baleine, je pense. Situé en face du logis des seigneurs du pont d'Hérisson, la merveille est un gros rocher oscillant, classé monument naturel. Cette pierre oscillante appartient au groupe des roches du paléolithique à caractère religieux, utilisée à une époque reculée de la préhistoire et plus tard par les Celtes, plus particulièrement pour les besoins du culte druidique, lequel perdura bien après l'occupation romaine. La merveille de Pougne-Hérisson. On peut s'allonger contre lui. On peut être bien, peut-être un peu protégé du vent.
Marien, vous êtes conteur?
Oui.
Et vous avez été invité à Pougne-Hérisson pour conter dans le jardin.
Dans le jardin, ouais. Le jardin des histoires ou des merveilles. Il a plein de noms, en fait, je crois, ce jardin. Et c'était un grand vertige de rentrer dans ce jardin-là pour raconter une histoire. Et puis, le nombril du monde, c'est... Déjà, rien que le nom, ça nourrit un imaginaire, quoi. On s'imagine... qu'il y a toute une histoire derrière ça, qui est nourrie, qui est vécue par tous les gens qui habitent là. Et c'est vrai qu'en arrivant ici, on plonge vraiment dans une histoire et on ne sait pas très bien ce qui est vrai et pas vrai, mais on croit à tout. Il faut le croire pour le voir, c'est la devise. Ils ont remplacé ça sur la mairie, ils ont pas mis liberté, égalité, fraternité, ils ont mis il faut le croire pour le voir. Donc moi je crois à beaucoup de choses et... Les noms des rues qui ont été rebaptisés par les habitants. C'est marrant, quoi. C'est des petits riens, mais comme au cordon, à côté du bar, il y a l'écriteau formel qui est dans tous les bars qui dit qu'on ne vend pas d'alcool à des mineurs de moins de 18 ans, tout ça, répression de l'ivresse et tout ça. Il y a un panneau au-dessus où il y a écrit si vous voulez goûter l'ivresse avant 18 ans, tombez amoureux. Ouais, moi, j'aime bien ça. Je trouve qu'on peut vraiment habiter un lieu. Avec des mots, quoi. On peut donner une âme à un lieu, on peut donner une fantaisie, on peut donner quelque chose qui fait qu'on se sent bien, quoi.
À l'ouest de l'Europe, un pays de rochers et d'eau, la Gâtine, le pays du Rhin gâtinais. Alors que le monde est à feu et à sang, tout ce qui se passe en Gâtine, Rhin. Tout cela par la grâce d'un saint aujourd'hui oublié, Saint Pou. Vénérez Saint-Pou, vous n'aurez plus peur de tout.
La Gâtine, c'est un territoire assez homogène, d'une terre assez gâtée, hein, comme dit son nom, et qui se trouve à une espèce de bloc de granit, qui est la fin du massif armoricain, qui se trouve entre deux tranches de calcaire. Le calcaire du sud, qui va aller vers Niort, pleine de niort avec ses assurances et de notre côté le Thouarsais avec ses melons et le début de l'Anjou. On est dans l'ouest de la France, dans des territoires d'élevage ici, ouais, beaucoup d'élevage, la vache partenaise par exemple, délice, merveille, absolue. La pomme, oh là là, la pomme.
La pomme,
bien sûr, on fait de la pomme, le mouton. Et donc cette Gâtine-là est un territoire assez particulier, c'est un territoire où c'est jamais rien passé. Donc c'est ce qu'on appelle le Rhin gâtinais. Au début, les gens disaient « trou du cul du monde », bien sûr. Mais justement, ça, c'est la transcendance. Hein, c'est-à-dire de faire passer le trou du cul du monde au niveau du nombril. Je vous jure que c'est un exercice qui s'appelle presque de l'aptonomie.
De quoi ?
De l'aptonomie. Vous savez, c'est cet art de parler à un enfant qui est dans le ventre de sa mère pour essayer de le faire tourner au moment de l'accouchement. Voilà, qu'est-ce que je peux dire ? Alors, donc, je m'appelle Yannick Jolin. J'étais un des premiers à découvrir qu'ici, il y avait des restes de importants sur ce qui s'est avéré par la suite un gisement de preuves, comme quoi ici, on était bien dans un des nombrils du monde. Voilà, donc j'étais un des premiers en 86 à découvrir ça, à essayer de réhabiliter cette idée du nombril du monde.
Alors, c'est quoi cette idée du nombril du monde, Yannick Jolin ?
La tradition du nombril du monde est une grande tradition, c'est-à-dire dans chaque grande civilisation, il y a toujours un lieu qui relie le ciel et la terre, et où les gens se rapilotent, se rassemblent. Et...
Alors, on est donc dans l'un des endroits du nombril du monde. Ils sont où, les autres ?
Oh ben, il y a Rapa Nui, hein, bien sûr, Rapa Nui, l'île de Pâques, qui veut dire nombril du monde, Cusco, qui veut dire nombril du monde aussi, Mexico, qui veut dire nombril de lune, mais il y a quand même quelque chose de... Mais bien sûr, après, il y a le mont Ararat, hein, l'endroit où l'Arche de Noé s'est posée, c'est en Arménie. Il y a Ayers Rocks, en Australie, la grosse montagne qui est la montagne sacrée par essence. Donc vous voyez, on n'est pas tout seul dans le monde, donc on est très très clair, on est très très, très conscient du monde, de la matière, mais en même temps, on a nos convictions.
Voilà. Moi, c'est Marion, je suis médiatrice culturelle au Nombril du Monde. J'accueille des publics.
Et tu fais les visites aussi ?
Bah, notamment, ouais, je suis responsable en fait, de l'accueil, donc ça m'arrive de faire des visites en effet. Ouais. Le Big Bang a eu lieu il y a 13,7 milliards d'années. Ça, c'est ce qu'on vous apprend dans les livres à l'école. Alors, si vous ne l'avez pas encore appris, vous l'apprendrez bientôt, hein, peut-être. Mais par contre, il y a quelque chose que vous ne saurez qu'ici, qui est un peu le secret. C'est qu'il y a eu un deuxième Big Bang. Un Big Bang mythologique. La naissance des histoires. Et la naissance des histoires, elle a eu lieu comme... Voici. Au fin fond des entrailles de la Terre. Une gigantesque explosion. Il faut imaginer une gerbe de lave qui jaillit vraiment très 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 haut dans le ciel. Et dans cette gerbe de lave, une sorte de cendre, de poussière. En fait, ce qu'on a fini par appeler le pollen d'histoire. Et puis, ce pollen d'histoire, en fusion au départ, hein, il faut... le concevoir, finit par refroidir et par s'agglomérer et former le minerai de Compte. Vous pouvez le voir, là, il y a une petite flèche qui est juste ici. C'est également la direction de la mine, de l'entrée de la mine au minerai de Compte qui se situe en contrebas du champ de l'autre côté. 6 juin 1944, l'heure je ne l'ai pas, je suis désolée, mais c'était au petit matin, après une nuit de tempête terrible. Le débarquement de Normandie. À Pougny-Hérisson, il y a eu aussi un parachutiste. Un parachutiste qui a dérivé, oui, avec le mauvais temps. John Barney Ferguson, américain du Colorado, ethnologue, spécialiste des cailloux. Il s'enrôle dans l'armée et il est parachuté en Normandie, mais... Enfin, le vent, quoi, la pluie, c'est terrible. Il dérive et il tombe dans le champ, là-bas. Juste en contrebas. Forcément, il cherche à se cacher. Et il se cache où, alors ?
Dans la mine,
mais bien sûr. Et il est retrouvé. Il est retrouvé par un habitant, Robert Jarry, le forgeron du village de Pougny-Hérisson. Il retrouve John endormi dans la mine au minerai de Compte. John et Robert deviennent très bons amis. Robert d'ailleurs prendra tous les risques pour le cacher, et puis à force de vivre dans cette mine au minerai de Comte, de l'explorer, elle est immense, partout sous nos pieds, eh bien, c'est qu'ils finissent par entendre quelque chose. Des histoires qui leur sont chuchotées aux oreilles.
...1990-2004, réhabilitation du nombril et de son jardin. Depuis 1990, grâce à un travail complémentaire de recherche et une ferme volonté de faire vivre des histoires à Pougny-Hérisson, une équipe de conteurs et d'ombilicologues réhabilite le jardin du nombril pour en faire une sorte de capteur végétal.
Les gens qui viennent visiter ce jardin prennent le temps de la benaiserie pour écouter les histoires. Les histoires, elles se promènent. Il faut prendre le temps pour les entendre.
Gabit, tu prends là et moi, je vais prendre là. Attends, tu vas monter.
Gabit, prends le gros tuyau.
Il y a quelqu'un?
Ah non, bah, il n'y a personne.
Attends, tu m'entends?
Lila.
Ah ouais.
La roseraie tubulante, une bouche dit des mots au bout d'un tuyau qui, à l'autre bout, les dit à une oreille.
Oh, oh maman, tu m'entends? Oh, tu m'entends?
Toi, parle dedans.
Oh.
T'as raison.
Un jour que j'étais tout seul, il n'y avait personne avec moi, j'allais me promener. Je regardais l'eau qui coule et je la voyais couler.
Pour faire un voyage sur terre, c'est plus difficile qu'on en croit. Les chemins sont tous de travers, on ne peut y marcher droit, on ne peut y marcher droit. Une, deux, trois.
Dans le jardin des histoires, si vous cherchez à y marcher droit, passez votre chemin. Il est tout de travers, entre un vaisseau Spoutnik déglingué, l'arbre mort, une structure toute en couleurs et en ferraille, des bosquets qui chuchotent et des pierres qui parlent, les oreilles frissonnent d'imagination. Non loin de là, dans la grange, l'atelier de Robert Jarry, le forgeron local qui a accueilli l'Américain Ferguson, cet atelier ressemble à un grenier de savants fous, avec ses machines et sa collection de minerais de Comte. Yannick Jolin, artiste conteur, à l'origine de cette folie douce, y croit dur comme pierre.
Moi, ce qui m'avait énormément botté, c'est tous les chirons de granit, tu vois, ces amoncellements de granit qu'il y a partout ici. L'Andra, au début, avait voulu mettre des déchets atomiques et il y avait une mobilisation extrêmement forte. Et c'est suite à cette mobilisation très forte que les élus ont commencé à se poser la question, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire sur notre territoire, etc. Moi, j'avais commencé à placer mes histoires à Pougny-Hérisson sans connaître forcément les gens de Pougny, parce que j'avais trouvé l'endroit formidable.
Qu'est-ce qui vous avait plu dans l'endroit? Le château, là, on est au pied du château.
Mais des ruines, vous n'avez pas vu encore l'endroit où on a les bureaux du nombril, c'est une ancienne auberge. Et cette auberge, parce qu'ici, il y avait un château très important, une garnison, c'est une des plus vieilles modes féodales du Poitou-Charentes, ça date de 1040, donc c'est très, très vieux. Il y avait un côté un peu décalé de ces maisons monumentales, totalement abandonnées, avec un type à l'époque qui cherchait des trésors, et la municipalité de l'époque qui voulait raser toutes ces vieilles baraques pourries pour en faire un parking pour la salle polyvalente qui sert à tout que c'est rare. Hein. Et moi j'avais aimé cette espèce d'ambiance hors du temps. Salut mon neveu, comment ça va? Eh, ils t'ont dit un peu les modifs pour la vidéo ou quoi? Ah ouais, va falloir qu'on saute. Ouais, parce que tu vas avoir le feu derrière, mon petit lapin. Voilà le nombril. C'est un peu comme Delphes, tu vois, c'est une pierre un peu sculptée comme ça. C'est la pierre qui vraiment, c'est l'épicentre, quoi, hein, du nombril. Avec un point qui marque l'orientation vers l'étoile polaire. Parce qu'on est la seule commune de moins de 360 habitants jumelée avec l'étoile polaire. Qui est le nombril de la galaxie, bien sûr, comme tout le monde le sait.
Donc il y a une petite flèche qui nous l'indique là, elle est au nord.
Ouais.
Donc ce nombril, c'est en fait un rocher qui fait 1 mètre de haut, 50, 80 cm, 1 mètre de large, on va dire. Un peu biscornu, mais très poli, rond, c'est du granit.
Ouais.
Et derrière nous, il y a une chapelle.
Voilà, bien sûr, la chapelle Saint-Georges. Dans Saint-Georges, bien sûr, celui qui terrasse le dragon. Et ici, on terrasse tous les dragons de la peur. Et donc, c'est une magnifique chapelle. Elle a été cassée un peu au moment de la Révolution, donc elle a été reconstruite après. Mais autrement, c'est... On est dans une chapelle. Ça, c'est un dragon sur ce vitrail-là, hein, qui est l'idée de ce dragon qui protège les histoires de Pougnérisson. Et là, il y a encore les machines à tarabuster le minerai de compte. Toutes les prototypes de Robert Jarry, c'était des machines pour... Parce qu'à l'époque, Robert Jarry et John Barney Ferguson, ils voulaient prouver que ça avait été un des nombrils du monde, parce que justement, ils voulaient faire parler les pierres, c'est-à-dire sortir les histoires des pierres. Donc, ils avaient mis au point plein de machines à tarabuster le minerai de compte, secouer le minerai de compte pour arriver à les faire parler, quoi. Mais...
Donc là, au niveau du chevet de l'église, il y a une scène.
Ouais.
Ah oui, il y a effectivement un vieux soutien-gorge.
Ça, c'est donc une machine à... C'est une machine qui secoue ce soutien-gorge avec la pierre dedans, sans doute pour effrayer la pierre. On voit bien les névroses des fabricants, hein, sans doute qu'il y avait quelque chose de l'enfance qui n'était pas tout à fait réglé. Hein, mais
c'est une vieille machine à coudre, effectivement, ouais. Avec le pied en acier.
Ça raconte aussi la difficulté de langage entre Robert Jarry et John Barney Ferguson, qui est un Américain de Telluride, dans le Colorado. Et quand il est débarqué ici, il ne parlait pas du tout français. Donc entre les deux, entre Robert Jarry et lui, il y avait parfois des incompréhensions. Et c'est pour ça que quand, en plus, John Barney Ferguson est parti en 58, pour des raisons qui seraient complexes à donner aux auditeurs, il lui a dit « fais ce que tu peux, match you could », et l'autre, il a compris « machine à coude », et c'est pour ça qu'il a fait tout un tas de machines à tarabuster le minerai de compte à partir de machines à coudre. Voilà. Faut reprendre son souffle, faut se dire bon alors attention, ne pas perdre pied parce qu'on entre finalement dans une autre réalité, un autre type de réalité. Et je comprends que c'est pas toujours facile parce qu'on se dit j'arrive dans une campagne paisible, tranquille, je vais prendre mon souffle et non on perd le souffle totalement quand on rentre dans cette réalité. Et là on n'est plus dans de la réalité augmentée, etc. Hein. Là on est dans une réalité augmentée mais manuellement, à la louche.
Connaissez-vous le rituel de Saint-Poux ?
Saint-Poux délivre de la peur.
Si t'as pris Poux,
pris Poux !
La Poux, la peur en parlange.
Savez-vous chasser la peur ?
La Poux.
Les histoires aident aussi les humains à avoir moins peur.
Ou bien leur font peur.
Oui, mais c'est une peur bienfaitrice, puisque c'est une peur qui permet d'expurger. Parce que depuis toujours, les humains portent leur dragon à l'intérieur et c'est trop difficile de porter ces pulsions de vie et de mort à l'intérieur de nous. Donc on a tenté de les accrocher aux arbres, on a tenté après de dérouler des récits pour qu'elles arrivent à donner un sens à nos vies. Donc on apaise nos dragons intérieurs en racontant des histoires même les plus effrayantes.
Ô grand Saint-Poux, y allons et pourrez la poux, et rabouni-poux, et tord tous les fous, les folassies. Ô grand Saint-Poux, y alloué pour et la poux, et la bouni-pou, les torts, tous les fous, les folassies.
Tranquillement, vous allez pouvoir vous avancer, on va installer un petit pot et puis on va partager ce verre de la bouteille avec toutes les personnes présentes. Merci à vous.
Donc je suis Jean-François Bacle. J'entame mon 7e mandat, mais les mandats durent qu'un an, donc ça fait 7 ans que je suis président, mais ça fait depuis le début que je suis partie prenante dans l'aventure de Pougnérisson et petit à petit, je me suis engagé jusqu'à être président.
Et alors, comment on devient président du Nombril du Monde ?
Ben, il faut être élu. Mais pour être élu, il faut être candidat. Et généralement, on est candidat tout seul. Donc c'est un plébiscite. On est sûr d'être élu. Mais avant tout, il faut avoir envie.
On va entendre parler beaucoup pendant quelques jours, ici à Pougnérisson, de Saint-Poux.
Saint-Poux.
C'est qui Saint-Poux ?
Alors... Pour vous résumer, Saint-Poux, c'est le saint local. Poux, la légende dit que les gens de Pougnérisson et des alentours venaient présenter leurs enfants à l'église de Pougnérisson, sous la cloche, pour leur enlever un peu la peur, des choses comme ça. Donc ça part de là. Après, Saint-Poux, au IVe siècle, il y a une famille, il y a le père, la mère et les deux enfants, il y a Poux et Rabouni. Ils sont rivaux, les deux enfants. Il y en a un qui est plutôt agriculteur, un peu qui pense, etc. Et l'autre, il est un peu plus fantaisiste, Rabouni, il est plutôt berger. Et il se trouve que le Rabouni, il fait rire son père. Donc il est le préféré de son père. Et Poux en souffre beaucoup. Tant et si bien que Poux finit par tuer son frère. Et en passant encore pas mal de détails, Poux finit par être découvert. Il est décapité. Et à ce moment-là, il prend sa tête sous son bras et s'en va dans la campagne pour reconstituer le corps de son frère dont il avait dispersé les éléments dans la campagne. Et c'est de là que démarre le rite de Saint-Poux, la procession de Saint-Poux, qui, à travers les siècles, bien qu'il se soit délité pour tomber pratiquement à rien du tout, a quand même protégé notre pays, la Gâtine, de la peur et accompagné une certaine folie, un certain surréalisme gâtinais.
Marchoise !
Breton avait une cousine à la Pérate qui lui envoyait tous les ans une barrique de Breton. Le Breton, c'est le nom local du Cabernet Franc, l'Anjou rouge, vous voyez. Et donc, un jour, il dit à ses camarades, « Oh, mais si on allait la voir à la Pérate !» Et donc, le faisant tous, le voyage pour aller à la Pérate, à la Forge à Fer. Et donc, avec Benjamin Perret, Pablo Picasso, Salvatore Dali, Magritte. On avait même une photo. La fameuse photo de la rencontre de la Pérate. Tout est parti de là.
Après la rencontre de 1920 à la Pérate, les surréalistes feront régulièrement des clins d'œil à la Gâtine dans leurs tableaux. On pense évidemment tout de suite à Magritte et à son fameux « Ceci n'est pas une pomme ». Mais dissimulé, caché, subtil, les références à la Gâtine sont multiples.
Il y a la fête, avec un temps orgasmique, la semaine du 15 août. Là où on a chassé des CRS quand il y avait des déchets toxiques, en 1988 à 90. On s'est couché tous devant les CRS parce qu'ils voulaient enfouir des déchets nucléaires. Après, quand ils sont partis de chez CRS, ils savaient plus ce que faire. Donc ils m'ont fait une fête.
Comment vous appelez ?
Moi, ils m'appellent Courtinet, André, Léon, Bernard, Gaston, Marie, selon les circonstances. André Godard. J'ai vécu à Saint-Aubin pendant 20 ans.
C'est où Saint-Aubin ?
Et c'est là où on a failli faire la Silicon Valley de la Gâtine. Mais Partenay nous a empêchés. Alors on s'est replié sur Pouille. En 1990. Donc, et maintenant, c'est au Meridian Greenwich, à Chalandray. Tu vois où coller ? Si tu viens de Poitiers, à mi-chemin, avant d'arriver à Partenay, 20 km, il y a Chalandray. Et là, il y a le Meridian Greenwich. Et donc, on va inaugurer la principauté du Breuil bientôt, qui est juste au point central entre l'Écosse et Tamanrasset. Ben oui, parce que le méridien de Greenwich, il est long. Hein, donc le point central, c'est au Breuil de Chalandray. Et ils allons faire une principauté. Parce qu'autrement, on n'arrive pas à demander de subvention. La commune met les priorités ailleurs. Il faut être nombriliste partout où on est. Les Chinois disent que t'es toujours le centre de l'endroit où tu es. Quand tu regardes autour, au milieu, il y a toi.
Tu lui parleras tout à l'heure, tu viens avec nous.
Ah, oh.
Attendez. Voilà. Donc là.
Là, c'est l'heure de la photo.
Le monde rural s'est écroulé. Les villages n'existent plus. C'est faux de dire qu'ils existent. Ils existent en apparence, il y a encore les maisons et encore les églises. Mais les structures de la ruralité ont totalement disparu. Elles s'appuyaient sur une économie basée autour de l'agriculture, qui faisait plein d'emplois induits, qui n'existent plus. Aujourd'hui, les gens qui habitent dans le monde rural sont des gens qui sont comme les autres. Ils font partie de petites communautés qui n'ont rien à voir avec ces villages-là. Donc, comment faire aujourd'hui pour qu'on puisse avoir l'impression que ces villages ont une vraie vie ?
Il y a des agriculteurs encore ici à Pougny-Hérisson ?
Très peu. Quand je suis arrivé, il y en avait beaucoup encore. On tapait dans les mains, puis il y avait 15 tracteurs qui étaient là. Maintenant, il y a très peu. Et puis les agriculteurs, on ne les voit jamais. Ce sont plus des gens, c'est des gens qui ont perdu toute solidarité. Ils ne regardent plus la terre. Quelques-uns, ceux qui ont un esprit de travail autrement. Mais les autres sont tellement occupés. En plus, c'est tellement dur aujourd'hui d'être paysan. C'est-à-dire que même ceux qui mardent comme des malades avec des machines de plus en plus énormes, ils gagnent tellement peu leur vie que c'est indigne, quoi. Donc,
Et alors, la particularité quand même de ce festival, c'est qu'il y a énormément de bénévoles et ce sont des habitants.
Ah oui, on a toujours eu beaucoup de gens du pays. D'abord, au début, c'était vraiment les gens de la commune qui... Oh, mais nous, les notes communes, ils ne voulaient pas do nos out. Puis petit à petit, on s'est ouvert, quoi. Et là, maintenant... Alors, il y a toujours des bénévoles historiques, des Gérard Pilet, par exemple. C'est des merveilles, c'est des gens incroyables. Là, le cordon, un bar, on n'avait rien pour accueillir les gens. On accueille. Les politiques parlent de nous comme un lieu majeur d'accueil touristique. Ils n'étaient même pas foutus de nous trouver 60 000 euros pour fabriquer une espèce de. Un pauvre auvent pour qu'on accueille dignement et les gamins et les touristes en accueil. Donc, c'est les bénévoles qui l'ont fait. Parce que, vous savez, les politiques, si ça brille pas, s'il ne faut pas une grosse inauguration, hein, mais un truc pour fabriquer du lien commun, collectif, non.
Ça ne sèche pas, mais une bretelle. Hein.
Voilà. Un petit scratch, un petit agrafe.
Oui. C'est quoi votre costume à vous ?
Oh, c'est comme tout le monde, un costume médiéval, mais tout est fait avec des matières recyclées. Donc vous voyez, j'ai de la bulle, ça c'est des fonds de cajou, tout ça, c'est sympa je trouve comme formule de...
Et c'est quoi votre chapeau ?
Alors en fait c'est un chapeau avec des fleurs. C'est des fleurs en plastique, hein. En général on les trouve au cimetière. Alors je sais pas si j'ai une tête de cimetière, mais...
T'as la tête en pot de fleurs.
Ah ben voilà.
C'est quoi votre personnage à vous alors ?
Là tout de suite, pour cette danse, on a tous le même personnage. Hein. Mais au cours de la soirée, je vais être un franc, je vais faire le cheval, enfin voilà. Et là c'est un personnage de Pouma, enfin de la troupe quoi. Et c'est la troupe d'ici. Alors moi j'habite pas Pougne, hein. Je suis à 5 km, mais bon, je participe, voilà.
Et vous appelez comment ?
Marie Teinturier.
Et ça fait combien de temps que vous participez en tant qu'amateur ?
C'est la première fois, je viens d'arriver dans la région, j'arrive de Tours.
De la région de Touraine, qui est un peu plus au nord.
Plus au nord, voilà. Et on a voulu descendre vers un pays de bocage. C'est ça ce qui nous a attirés en premier ici. Et il se trouve que dans ce pays de bocage, il se passe quand même des choses.
Pourquoi quand même ?
Ben parce qu'on n'arrête pas de dire dans le spectacle que tout est rein ici. Il y a rein. Ben non, il n'y a pas rein. Entre autres, ce spectacle, c'est merveilleux. Ça fait rencontrer des gens. C'est chouette, je trouve. Et j'espère couler quelques jours heureux en Gâtine.
Rien, parce que rien, c'est rien de différent d'ailleurs, rien de qui nous identifie, rien d'extraordinaire, rien.
C'est plus comme ça maintenant ?
Non, c'est plus comme ça. pas Hubert, j'habite Pougny-Hérisson depuis 84. J'étais sur la commune d'Allonne, qui est à l'autre bout de la communauté de communes, dans des vergers de pommiers, pendant 15 ans.
La pomme, c'est la culture locale.
La pomme étant à l'origine une qualité locale de petite dimension. Et rapidement, les pommiers se sont plantés, les espèces se sont multipliées, et puis les soins sont devenus moins mécaniques et plus polluants, quoi.
Vous en avez souffert de ça, d'ailleurs ?
J'en ai souffert, pas pendant qu'on l'utilisait, mais depuis, oui. J'ai commencé en 71 avec un cancer. Les agriculteurs sont de moins en moins nombreux, de plus en plus équipés. Donc on voyait bien que tout foutait le camp, quoi. Les racines se sont remises en place avec le nombril. C'est un avantage, il n'y a que nous qui sommes dans la merde comme ça, quoi. Donc on va le raconter et puis faut rêver, faut voir l'avenir.
Et est-ce que tous les habitants au départ étaient d'accord avec cette idée-là ? Comment ça a été accueilli, cette idée de nombril du monde ici ?
Ça a paru farfelu, ça a paru éphémère. On s'est dit, après tout, sur une commune comme Pougny-Hérisson, qui n'a pas de structure d'accueil nulle part, ni de logement, ni d'accueil de groupe, devrait s'installer un pôle culturel. Si c'est pas plus loin d'aller d'Hérisson à la piscine de Parthenay, c'est pas plus loin d'aller de Parthenay au nombril d'Hérisson. Normalement, quand on fait le chemin, c'est dans les deux sens la même distance.
Parthenay, c'est à une demi-heure d'ici en voiture à peu près ?
Parthenay, c'est une demi-heure, oui. Ça a mordu un peu à l'hameçon, hein, parce que quand j'étais maire, la commune n'a jamais baissé de population, sans non plus beaucoup augmenter, en rajeunissant un sacré coup. Et comme toutes les histoires sont parties avec le Big Bang de Pougny-Hérisson, de temps en temps, il faut quand même que viennent des idées neuves. Il faut être contagieux. Le mot contagieux me plaît bien, moi. Et
puis ça va bien avec conte.
Ça va bien avec conte.
Et tout de suite sur RFI, c'est la musique populaire de Fantasio.
La musique populaire, mère de la rue, se retrouve camisolée de force, signée trouée. Tous ces enfants revendus ne dansent plus, ne chantent plus, elle ne réagit plus. Les quelques bouches à bouche à l'air pollué que j'ai tenté l'ont laissée morte et nue. Seront partis. Tu es une des seules sur qui on pourra compter. Nous, être fragiles, écartelés, divisés, dévalisés, aux cinq sens vidés de la sève mère des instincts. T'as fait cuire un feu mou, tu bouillonnais. Des champs chinois à feu doux enveloppaient le ventre des femmes passantes. Chavirait à l'odeur des sons, comme du vent frais sous leur boubou sans nom. Les magasins de guitare t'ont violé, les festivals de jazz t'ont achevé.
Vous écoutez Si loin, si proche sur RFI.
Que j'ai perdu mon âme en peine en trouvant ma gomme, princesse vêtue de laine, déesse sans sabot, je lui ai dit de la Madone. Tu es le portrait, mais j'avais mal laissé faire. Les filles, c'est comme ça.
Eh bien, je suis en train de me préparer pour descendre dans. Je devrais déjà être descendu. sur la scène, sur le lieu du spectacle.
Est-ce qu'avant de monter sur scène, vous avez la poux, la peur?
Ouais, alors moi je l'ai eu hier, sacrément, ça m'a saisi l'estomac. Au moment où je mangeais, je me suis dit, il faut que j'arrête de manger parce que là, je sentais que ça me tordait. Et donc, comme lorsqu'on... Si t'as pris poux, pris poux, donc j'ai pris époux et après ça a passé, quoi. C'était... Comme quoi ça fonctionne, hein.
Non, moi j'ai pas le trac, faut y aller, voilà.
Et sur scène, chaque soir du Festival du Nombril du Monde, au pied du château, la troupe d'amateurs enchaîne, aux côtés d'Yannick Jolin, les tableaux historiques, revisités sauce hérisson. Ce festival mobilise 90 bénévoles, 8 salariés et 2 drôles de professeurs.
Les zombilicologues.
Les zombilicologues.
Les zombilicologues.
S'adressent à vous.
Les gens de la ville. Alors, nous tenons à vous préciser que Rhin signifie rien.
Bon, ce n'est déjà pas une chose aisée de parler du Rhin gâtinais qui est pourtant le cœur de l'idiosyncrasie locale. En effet, quand on demande quelque chose à un gâtinais, très souvent, il répond par ce signe.
Oui, ce serait peut-être un peu comme une forme d'immobilisme, mais en mouvement.
Je suis Jérôme Rouget, alias Rogers, un des zombilicologues, et je suis plus particulièrement spécialiste du Rhin gâtinais.
Titus, et moi j'incarne donc un personnage aussi d'ombilicologue, enfin docteur en physique irrationnelle.
Alors moi je suis Gérard Baraton, je joue aussi un personnage d'ombilicologue, et je suis docteur en terroir.
C'est quoi un ombilicologue, messieurs ?
Alors, un ombilicologue, c'est un scientifique qui est directement lié au nombril du monde et donc qui a vocation à chercher, à comprendre le phénomène du nombril du monde. Donc, l'idée que le Pougnérisson soit l'endroit où sont nées toutes les histoires, on cherche à comprendre ce que le nombril a dans le ventre. Et voilà, on s'accroche pour faire la démonstration de ce phénomène assez incroyable de circulation d'histoire dans le monde.
Et vous venez d'ici, vous, Gérard Baraton ?
Oui, moi je suis né en Gâtine, à la chapelle Baton, pas très loin d'ici. Ouais.
Dans le pays du Rhin ?
Dans le pays du Rhin, ça me va très bien.
Et vous, Rogers ?
Moi, ce qui m'est apparu cette année que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a... Parce qu'ici, on a été vraiment dans un pays de sons et lumières. Et puis, on n'est pas loin du Puy du Fou et des sons et lumières qui se prennent quand même un peu au sérieux, on peut dire. Et là, il y a vraiment aussi, du coup, un peu une... j'allais dire une moquerie, mais enfin, un peu une réflexion par rapport au sérieux de raconter des tableaux historiques. Et on est dans des pays modestes, même si historiquement, le Poitou a une grande histoire. Mais par exemple, les Deux-Sèvres, pas grand monde ne revendique comme ça d'être des Deux-Sèvres, même si on en est très content. Mais il y a cette espèce de modestie et puis ouais, d'autodérision, de regard un peu amusé sur soi. Comme ça me fait un peu penser parfois à ce qui est l'esprit qui règne en Belgique dans certaines créations.
On le regarde de l'intérieur. C'est pas comme si un Parisien folkloriste a un regard sur le territoire. C'est pas du tout ça. C'est un miroir respectueux, sympathique. Donc on est aussi, nous, dans l'autodérision, dans l'autocritique. Je sais que ma famille, enfin, l'origine de ma famille est profondément conservatrice, réactionnaire, mais je suis quand même attaché à ces gens-là. J'ai reçu des valeurs de ces gens-là qui m'intéressent. Après, il faut faire le tri. Mais c'est justement ce qu'on vit dans le collectif qui nous aide à faire le tri par la suite.
Moi, je suis un pur produit d'éducation populaire. Donc, je suis, dès l'âge de 15 ans, 16 ans, j'ai commencé à aller avec un magnétophone collecter des vieux, aller enregistrer des chansons, des contes, tout un tas de choses, quoi. Et ça se passait sur tout le territoire du Poitou-Charentes. Et à l'époque, il y avait une dynamique absolument incroyable là-dessus, sur cette prise en main de notre histoire, en nous disant « On nous apprend l'histoire des autres, mais jamais la nôtre. Comment voulez-vous que des jeunes puissent grandir avec la fierté d'un territoire si on ne les nourrit pas de la singularité de leurs origines ?»
Il y a quelque chose de militant dans ce festival.
Absolument, vraiment. Revendiqué, absolument. Derrière la fantaisie, la dérision, le deuxième degré, c'est une manière de revendiquer aussi, une manière de se comporter au monde, quoi. Ouais.
Et
de s'affirmer.
D'affirmer un territoire, d'affirmer, dire on n'a pas honte d'être ce qu'on est, on se moque de nous.
Et vous veniez d'où à la base ? Parce qu'il y a quelque chose de très originel dans votre démarche aussi, à travers la langue, à travers ce travail que vous faites.
Ben, il est né d'un département juste à côté de la Vendée. Mais c'est vrai que la langue a été un facteur aussi d'intégration extrêmement important. Mais de toute façon, il y a des variations et c'est justement ce qui est la beauté de ces langues. Non, qu'est-ce qu'il y a comme mots des mots magnifiques. Tiens, quand le ciel s'ébaluche, ébaluché, comme la balle du blé qui s'en va, quand le ciel se dégage de ses nuages et qu'il s'éclaire, on dit s'ébaluché, comme un esprit. Mes idées se sont ébaluchées. Hein. On veut dire que tout d'un coup, j'ai l'esprit qui s'éclaire.
On est un cerf. Un cerf de grande chaudure, homme loune, dans la garouée de monde qui sont l'ail, homme, femme, à garouée saraillé de contre le chaille.
Et alors comment on l'appelle ce patois, cette langue, comment on l'appelle ?
Le poitevin Saint-Onger. Ouais. Nous on dit aussi le parlange, hein, mon parlange, ma, comme diraient les Québécois, diraient ma parlure, le parlange. Comme ce n'est pas une langue normalisée, standardisée par des volontés politiques, puisque quand il y a une langue unique, c'est parce qu'il y a une volonté politique derrière. Donc là, il n'y en a pas eu. Donc c'est une langue qui a encore toutes ces modulations, ce lien avec la terre. Sur le calcaire, on ne parle pas pareil que sur le granit. Et en Achanna, Vimbandela, on va dire tout en A. Ici, les terminaisons seront tout en I. Mais le vocabulaire de base reste le même. Et le I a cette beauté-là, c'est qu'il veut dire à la fois le je et le nous. Et c'est l'action derrière qui va déterminer si c'est moi, tout seul, ou si c'est le collectif qui fait. Il fait, y faisons, y chante, y chantons. Et moi, je trouve ça assez beau. J'avais proposé à l'Académie française, d'ailleurs, de remplacer le « je » et le « nous », par le « i ». Je n'ai pas eu de réponse, mais je ne désespère pas, parce qu'un jour ou l'autre, on se rendra compte de même l'effet dans cette nouvelle société où il faudra rebâtir des nouvelles communautés, des nouvelles manières de vivre ensemble. Ce « i », il ne fait pas l'économie de l'individu, mais en même temps, il est capable de penser le collectif.
Eh bien, il est temps pour nous tous de prendre de la hauteur, s'alléger de nos peurs. Pour ça, tous, toutes, allons devenir nos amateurs, de ceux qui aiment. Nous allons tous marcher vers le nombril, la source de toutes les peurs, mais marcher immobile. Parce que quand on marche bien dans ses intérieurs, les belles choses finissent par arriver jusqu'à nous. Quand on marche bien dans ses intérieurs, les choses belles arrivent jusqu'à nous.
La peur, c'est bien elle qui ferme les portes à clé des maisons, c'est elle qui ferme aussi un peu les portes à clé des gens, qui empêche cette ouverture à l'autre. Et on est vraiment, en ce moment, je crois, tout le monde dans des réflexions de cette nature. Donc c'est vrai que cette thématique, elle paraît particulièrement bien dans notre temps.
Et là, c'est plus une problématique locale, c'est universel, la façon dont les gens se recroquevillent sur leurs propres identités. Donc, ce qui est fascinant hein, dans la peur, c'est que c'est une projection mentale. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est cruel, c'est d'accepter l'idée que la quasi-totalité des peurs ne sont pas fondées. C'est-à-dire qu'on a, nous humains, cette capacité à s'inventer, à imaginer qu'il va nous arriver quelque chose. Alors, même si c'est un système de protection, ce qui est terrible, c'est que la grande majorité n'ont pas de fondement. Et donc, on est quand même un peu prisonnier d'une espèce d'angoisse permanente de ce qui va potentiellement arriver. Et ben ça, c'est quand même un sacré frein effectivement à l'ouverture, à l'autre, à la prise de risque, à tout ce qui normalement devrait nous porter dans l'existence.
Bonjour à tout le monde, merci d'être venu si nombreux à l'ombre dans le jardin. Je crois que c'est peut-être le meilleur endroit du jardin que vous avez pu trouver, donc ça c'est formidable, c'est très très bien. On est très heureux d'accueillir cet après-midi Marien Guillet, voilà, qui nous vient directement de Marseille, qui vient vous présenter son spectacle Import-Export, qui est l'histoire d'un jeune homme qui va partir en Inde à la recherche de son père.
Comment rentre-t-on dans sa propre histoire? Par quelle porte? Combien de coups faut-il frapper? Et qui nous ouvre? Est-ce un sourire, une grimace, un soupir? Par quel silence trouve-t-on les mots pour raconter ce qui n'a jamais été? Tout ce qui était là avant nous, qu'on n'a jamais vécu. Quel est le chemin à suivre? S'aventure-t-on armé de chaussures lacées, noué contre vents et marées? Ou bien doit-on marcher pieds nus dans le mystère de ses origines?
Les contes ne sont pas que pour les enfants. Mais c'est ce qu'on croit, nous. Les adultes, on ne s'intéresse plus aux contes, à part quand on a des enfants.
Oui, il y a un peu l'image que le conte, effectivement, ça reste enfantin. C'est dans l'image des contes de fées, une petite morale à la fin pour endormir les enfants. Moi, je crois que, au contraire, les contes, c'est fait pour réveiller les gens, pas du tout pour les endormir. On peut s'endormir avec une histoire, on peut se laisser aller, on peut... Ouais, c'est agréable de s'endormir quand on nous raconte une histoire, mais je crois que vraiment que les histoires, c'est vraiment pour réveiller les gens. Qu'à un moment donné, avec une histoire, on peut se lever et puis on peut se dire « Allez, allez, je tente, j'ai de l'audace, j'y vais, j'ai envie de partir en voyage, et ben j'y vais, j'ai envie de changer de vie, ben j'y vais, j'ai envie de... » Moi, les histoires, ça me donne vraiment envie d'oser, en fait. Donc pour moi, elles sont là, les histoires, en fait. Elles sont pas uniquement dans le conte qu'on raconte aux enfants, le conte traditionnel, le conte de fées, tout ça. On nous raconte des histoires tout le temps. C'est vraiment un endroit où... où chacun de 0 à 177 ans peut venir ici et se nourrir d'histoires pour que son jardin intérieur il soit fleuri, pour que ça débroussaille, pour que les histoires, c'est pour tout le monde, quoi. Ça, c'est sûr. Et là, on le voit, parce que déjà, mais rien qu'au niveau concrètement, au spectacle, il n'y a pas tant d'enfants que ça. Et les adultes, ils ont des grands yeux quand on leur raconte des choses. Je crois qu'en fait, il y a des lieux comme ça ou des moments dans la vie où... on se met à entendre une histoire et il n'y a plus d'âge, en fait. Il y a plus de... On est tous enfants, on est tous adultes, je ne sais pas. Je sais pas si c'est les adultes qui redeviennent enfants ou si c'est les enfants qui d'un coup deviennent adultes et pigent beaucoup plus de choses. Mais il y a des contextes comme ça, des moments où quand l'histoire démarre, on est dans un état où on est au-delà des âges qu'on peut avoir et on est touché par une histoire, on est embarqué, on voyage, on est ému, on rit, on tremble, on frissonne, on a envie de... Voilà, d'aller parler aux gens qu'on aime ou aux gens qu'on n'aime pas. On a envie de prendre des gens dans les bras, voilà, parce qu'une histoire, ça a cette force-là, je trouve.
À Pougny-Hérisson, on réenchante le monde et ses écoles. Tout récemment, l'école du village, fermée depuis belle lurette, a été rachetée et réhabilitée par un artiste roumain, Bodo. Sa façade, repeinte tout en couleurs de mille yeux, attire de nouveaux curieux avec pour ambition d'en faire une résidence d'artiste internationale. Pougny-Hérisson, nombril du monde, on vous dit. Merci aux équipes de cet épatant festival pour leur accueil et un merci tout particulier aux musiciens du spectacle, Sarah Lefebvre, Laura Larry, Céline Develay-Mazurel. On vous dit à la semaine prochaine pour de nouveaux voyages. Et d'ici là, n'oubliez pas de rêver en conte et en podcast avec nous sur toutes les bonnes applications.